Juvamine.
Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est maintenant 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. RFI Matin, l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Et la une de ce journal, 3 juges de RDC condamnés à des peines de 5 à 7 ans de prison, reconnus coupables pour des faits de corruption. Le gouvernement camerounais, contraint de réagir sur les rumeurs autour de l'état de santé de Paul Biya, le chef de l'État serait toujours en séjour privé en Europe selon un communiqué publié hier. Une procédure de destitution contre le vice-président kényan Rigathi Gachagua, adoptée hier par les députés. La motion doit désormais être votée au Sénat. Également au programme, les élections générales aujourd'hui au Mozambique. 3 scrutins. Les producteurs de coton qui réclament davantage de retombées positives sur le continent. Et puis du cinéma avec l'histoire de Souleymane, un film qui a été primé à Cannes dans la section Un certain regard. L'histoire d'un jeune Guinéen livreur à vélo en France qui attend une demande d'asile. Reconnu coupable de corruption en RDC après la diffusion d'un audio qui avait fait grand bruit. 3 juges ont donc été condamnés à des peines allant de 5 à 7 ans de prison. 3 hauts magistrats de la cour d'appel de la province de Haut-Lomami dans le sud. Décision rendue en début de semaine par la cour de cassation de Kinshasa et sur laquelle revient pour nous ce matin notre correspondant Pascal Moulégois.
Un audio avait fuité mi-septembre. 3 juges s'est disputé la somme de 35 000 dollars obtenue d'un justiciable par l'intermédiaire d'un avocat. Le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondé, avait immédiatement ordonné l'arrestation des concernés. L'avocat et un chef traditionnel, 2 corrupteurs sont en cavale. Les corrompus, les 3 hauts magistrats, dont le président de la cour d'appel de la province de Haut-Lomami, Emmanuel Tombo, ont été jugés par la cour de cassation, la plus haute instance judiciaire. Sa décision est sans appel. Firmin Vondé, le procureur général près cette haute cour.
Et nous sommes décidés à aller jusqu'au bout, en découdre avec toutes les antivaleurs qui gangrènent encore la profession de la magistrature.
Elie Léon Doumba, le président de la cour de cassation.
Le signal est fort. Ce sont des collègues qui ont fait une longue carrière de plus de 30 ans, mais qui n'ont pas compris la leçon et le message. Et ce message doit être un message fort qui est lancé à tous les opérateurs judiciaires de la République démocratique du Congo. Nous allons aider la justice à relever la nation congolaise et le chef de l'État à diriger ce pays sans antivaleur dans les milieux judiciaires.
Le même jour, dans la ville minière de Kolwezi, une femme d'affaires chinoise a été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de corruption. Pour l'ONG congolaise ACAJ, il s'agit d'un réveil spectaculaire du pouvoir judiciaire. Comme pour la condamnation des magistrats, l'organisation de la société civile salue des actes, je cite, pédagogiques et historiques. Pascal Moulégois, Kinshasa. RFI.
La RDC, où la situation humanitaire reste préoccupante. 940 000 personnes supplémentaires ont dû être déplacées sur le territoire national cette année, ce qui porte le bilan tenu par l'ONU à plus de 6 400 000 déplacés internes. Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, faisait le point hier justement au Conseil des droits de l'homme à Genève. Un organe au sein duquel la RDC brigue d'ailleurs un siège, mais la situation en la matière se dégraderait elle aussi dans le pays, alors que la violence se poursuit dans le même temps. L'ONU pointe ici notamment dans l'Est les attaques imputées aux rebelles du M23. Paul Biya devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. C'est en tout cas ce qu'affirme un communiqué officiel publié hier par le gouvernement camerounais. Il dément ainsi les informations faisant état de la mort du président Paul Biya. Information relayée notamment hier matin par un média basé aux États-Unis. Après plusieurs absences remarquées du chef de l'État lors d'événements internationaux, les rumeurs vont bon train. Pourtant, Paul Biya, âgé bientôt de 92 ans, vaquerait actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse, selon le cabinet de la présidence. Le ministre du Travail, Grégoire Onowa, rejette lui aussi la rumeur.
Les gens cherchent par divers moyens de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État à des fins qu'ils savent. Et moi, j'estime tout simplement qu'ils doivent payer le prix fort en annonçant des mensonges aussi grossiers. Et je pense que dans nos institutions, il y a des mécanismes qui doivent permettre de poursuivre ce genre de personnes, parce que on n'annonce pas le décès d'un chef d'État sans s'assurer de ce qui se passe, sans même avoir appris avant qu'il était malade. C'est une réaction, j'allais dire, de grosse déception par rapport à ces organes de presse qui veulent se faire prendre au sérieux. La justice, le droit, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort.
Le ministre camerounais du Travail, Grégoire Onowa, contacté par Sidi Yansané. Une procédure inédite au Kenya. Les députés ont voté hier soir la destitution du vice-président Rigathi Gachagua au terme d'une longue journée de débats et d'une prise de parole de l'intéressé devant le Parlement pour se défendre. Rigathi Gachagua, qui est en froid avec le président William Ruto depuis plusieurs mois, visé aujourd'hui par 11 motifs de destitution différents, mais il dénonce pour sa part un complot politique et des accusations de pure propagande. À Nairobi, correspondance d'Alban Tiroir.
Pendant près de 2 heures, le vice-président a tenté de se défendre face aux députés. Cette motion de destitution lui reproche, entre autres, des faits de corruption, d'avoir incité à la division ethnique ou encore d'avoir fait preuve d'insubordination envers le président. Rigathi Gachagua a rejeté ces accusations dans le détail avec un épais dossier monté par ses avocats présentant diverses vidéos et documents. Il a nié, par exemple, son implication dans un scandale de corruption d'approvisionnement de moustiquaires. Il s'est aussi défendu d'avoir accumulé de manière inexplicable un patrimoine immobilier colossal estimé à 36 millions d'euros. Plusieurs propriétés correspondraient selon lui au patrimoine de son frère défunt. Mais ces explications n'ont pas réussi à convaincre les membres de l'Assemblée nationale présents qui se sont prononcés dans la foulée. 281 d'entre eux ont voté en faveur de sa destitution, bien au-delà des 233 voix nécessaires. Seuls 44 députés ont voté contre. La motion de destitution doit désormais être débattue puis votée au Sénat où 2/3 des voix seront nécessaires pour qu'elle soit approuvée. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Aux Comores, l'opposition se met en ordre de marche. Une 20aine de partis politiques se sont réunis hier à Moroni pour coordonner leurs efforts face au président Assoumani et à sa gestion de l'État. 2 commissions ont ainsi été mises en place pour faire front commun. Cette initiative de l'opposition comorienne intervient alors que le président blessé au couteau en septembre dernier n'a toujours pas présenté de bulletin de santé officiel. Jour de vote au Mozambique, élection générale. Aujourd'hui, 3 scrutins au programme pour élire les gouverneurs de province, les parlementaires et le chef de l'État. Une présidentielle pour laquelle 4 candidats sont engagés, à commencer par Daniel Chapo du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Mais pour la première fois, il se pourrait bien que le duel ne se joue pas avec l'ancienne rébellion de la Renamo, mais avec un indépendant qui a justement quitté la Renamo. Avant cette journée de vote, on fait le point justement sur les forces en présence avec Gaël Lalex.
C'est à la surprise générale que le Frelimo a désigné Daniel Chapo comme candidat. Cet ancien présentateur télé de 47 ans, né après l'indépendance, n'a pas combattu lors de la guerre civile de 75 à 92, ni occupé de place majeure dans l'appareil du parti. Certains y voient le choix du renouveau, d'autres une marionnette manipulable par les éléphants du Frelimo. Face à lui, Ossoufo Momade, 63 ans, ancien général de la Renamo, et Lutero Simangu du mouvement démocratique du Mozambique, 3e force politique du pays. Mais la vraie menace pour Daniel Chapo reste le candidat indépendant Venancio Mondlane. Cet ancien de la Renamo jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse mozambicaine. Il est aussi soutenu par le parti Podemos, composé d'anciens déçus du Frelimo. Son élection à la mairie de Maputo lui a été volée l'année dernière par les institutions électorales, selon Borges Namiré, chercheur pour l'Institut des études de sécurité. La transparence sera l'un des grands enjeux de ces élections. 12 000 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités. Ossoufo Momade prévient, nous voulons des élections justes. Dans ce cas seulement, il n'y aura pas de conflit. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le C4+, c'est ainsi que l'on surnomme le top 5 des pays producteurs de coton en Afrique. Bénin, Mali, Burkina Faso, Tchad et Côte d'Ivoire qui ont fait front commun à Cotonou, la capitale économique bénin. Ils y ont partagé leur point de vue à l'occasion d'un forum organisé pour la Journée mondiale du coton. Le rendez-vous a réuni près de 400 délégués venus des quatre coins du globe, mais pour le C4+, c'était l'opportunité de défendre le coton africain et de plaider surtout pour un développement des retombées sur le continent, Jean-Luc Aplogon.
Les producteurs africains ont saisi l'occasion pour rappeler avec insistance que l'Afrique ne profite pas assez de son or blanc. Le groupe des 5 premiers producteurs et exportateurs du coton africain regrette cette réalité. Des experts nationaux ont réfléchi à la bonne stratégie. La première anomalie à corriger est la situation des paysans. Consultés, ils formulent une requête que résume l'ancien ministre malien du commerce et de l'industrie, Haruna Niang.
Ils veulent que l'activité qu'ils mènent soit reconnue par le marché, par les politiques, et qu'ils aient de manière équitable la part qui leur revient. Le coton pour eux, c'est leur vie, la vie de leurs enfants, leur avenir.
Certains experts et négociants européens pensent que les paysans vont gagner plus en augmentant leur rendement à l'hectare. Shadia Assouma, ministre du commerce du Bénin, privilégie l'option de la transformation locale.
L'exploitation du coton ne peut pas être un produit de lutte contre la pauvreté, mais plutôt l'exploitation du coton transformé.
Le taux de transformation du coton brut en Afrique est faible. D'ici à 10 ans, il faut le porter à 25% ou 50% pour les plus ambitieux. Le Bénin, lui, rêve d'arriver à 100%. Le pays est dans la dynamique de la transformation depuis 2020. Il a été créé une zone industrielle pour la transformation des produits agricoles. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et l'économie ouest-africaine, il en sera question également dans la chronique des matières premières après ce journal. Notre dossier, le Burkina Faso puis le Mali qui ont interdit à quelques jours d'intervalle l'exportation d'amandes de karité. En attendant, une sortie cinéma aujourd'hui en France avec l'histoire de Souleymane, un film de Boris Lochkine récompensé à Cannes. Dans la section Un certain regard, il a décroché le prix du jury et le prix du meilleur acteur, décerné à Abou Sangaré. L'acteur principal, un jeune Guinéen en attente de régularisation en France. Une situation faisant écho à son personnage. Il incarne ici un jeune livreur à vélo guinéen à la veille de son entretien de demande d'asile. Elisabeth Le Quéré.
En 2019, Boris Lochkine traçait dans Camille le portrait de la photographe Camille Lepage, tuée en Centrafrique à l'âge de 26 ans. C'est un autre visage inoubliable que nous rive sa caméra dans son nouveau film. Sans papier, Souleymane livre des repas à vélo. Le jeune migrant vit dans l'espoir que sa demande d'asile sera retenu, et pour mettre les chances de son côté, il s'est inventé tout un parcours de réfugié politique. Boris Lochkine.
C'est des gens qui sont dans une situation absolument précaire, et s'ils ont des papiers, tout d'un coup, leur vie change. Tout d'un coup, ils peuvent imaginer de chercher un vrai travail. En gros, commencer à vivre une vraie vie, alors que tant qu'ils n'ont pas de papiers, ils sont comme en prison.
Devant la caméra de Boris Lochkine, un jeune acteur non professionnel, Abou Sangaré, dont l'histoire résonne avec celle de Souleymane.
Je suis arrivé en France en 16 ans, quand j'ai eu ma majorité, j'ai demandé un titre de séjour, ça a été rejeté, et je sais ce que ça fait d'attendre ces papiers ici. À ce niveau-là, je me mets dans sa peau.
La première demande de régularisation d'Abou Sangaré a été refusée. La deuxième aussi. Une troisième est en cours qui, celle-ci, a de bonnes chances d'aboutir à la faveur du prix d'interprétation à Cannes et du succès critique du film.
Elisabeth Le Quéré. Et j'ajoute que Boris Lochkine, le réalisateur du film, était notre invité ce matin. C'est à retrouver sur Internet, bien sûr.